de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Élisée Mpatine est en direct depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Et donc d'ici là, on va retrouver Amine Birouk et Amdine Si à Dakar et à Casablanca. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Contre un toute attente, l'UMSM Loum du Cameroun a tenu en échec les Congolais de l'AS Vita Club à Yaoundé. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 0-0. Alors Thierry, finalement, tout va se jouer à Kinshasa dans deux semaines.
Tout va se jouer à Kinshasa dans deux semaines, mais je pense que ce résultat était prévisible hein, au vu de la configuration actuelle de l'association sportive des clubs, qui est très loin de l'équipe qui a disputé récemment la finale de la Coupe de la Confédération. Le club est à, on va dire, 90% reconfiguré avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Hein. Je ne veux pas rappeler l'épisode des joueurs qui ont traversé le fleuve par pirogue pour rallier Brazzaville puis Rabat au Maroc. Bref, c'est une équipe jeune, c'est une équipe renouvelée qui a fait le déplacement du Cameroun sans son entraîneur Florent Ibengué, qui après 4 ans sans vacances a demandé à solliciter un break après avoir démissionné de l'équipe nationale et l'a obtenu des dirigeants de l'association sportive des clubs. Ce sont donc ses adjoints en tête Raoul Chongou qui ont fait le déplacement de Yaoundé pour ce match. Et il ne faut pas oublier également que le championnat congolais n'a pas encore démarré. C'est seulement ce week-end que le coup d'envoi de l'édition 2019-2020 sera donné. Donc les équipes sont un peu dans ce contexte de préparation, de transfert de joueurs et de formalités administratives à remplir pour s'engager en Coupe d'Afrique. Et c'était donc prévisible que l'association sportive des clubs ne puisse pas présenter un visage radieux, en tout cas le visage qu'on lui reconnaît depuis quelques saisons en Coupe d'Afrique.
Merci Thierry. Même score hein, de 0-0 entre les Ivoiriens de SO Armée et les Mauritaniens du FC Nouadhibou. De son côté, le champion d'Afrique 2016 Mamelodi Sundowns a chuté 2-1 au Congo sur le terrain de l'AS Oto. Les Buffles de Borgou ont été tenus en échec à domicile 1-1 par l'ASCK de Kara du Togo. Grosse déception hein, pour le coach béninois Amidou Haruna que nous allons écouter.
Le match nul n'est pas une victoire, mais non plus on ne refuse pas.
C'est un sentiment de déception qui m'anime, pas forcément du score, mais du contenu en tout cas de ce que nous avons montré au public béninois. C'est vrai, c'est un match nul, l'adversaire a marqué sur nos installations, c'est un léger avantage, mais je pense qu'au pire des cas, nous aurons dû gérer ce match et garder ce score de 1-0. On n'est pas encore éliminé. C'est vrai, l'adversaire a pris un avantage en marquant sur notre installation, mais on peut faire autant chez eux.
Autant chez eux, le coach togolais, lui aussi, croit à la qualification à domicile. On écoute Kassim Guyazou.
Le match nul n'est pas une victoire, mais non plus on ne refuse pas le match nul. Ça nous permet de mieux se préparer et à Lomé et remporter ça. Mais on ne va pas dire, oublier que l'adversaire aussi est de taille. Donc on a vu là où ça n'a pas marché, on a vu là où ça a marché. On va mieux se préparer et finir le travail à Lomé.
Des propos recueillis par Élisée Mpatine qui est avec nous. Alors Élisée, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Béninois?
Oui, ce qui n'a pas marché, il faut dire que l'équipe de Parakou, du septentrion, hein, de la zone septentrionale du Bénin, qui domine le football béninois depuis deux saisons, a manqué un peu de fraîcheur physique, non seulement, mais aussi tactiquement. Ça n'a pas marché. C'est vrai que depuis que le Bénin s'est qualifié pour les quarts de finale hein, de la Coupe d'Afrique des Nations, mais la pression est tout autre chose ici à Cotonou. Chaque fois quand une sélection nationale joue ou bien un club joue contre un club étranger, eh bien la pression est énorme. C'est comme si, pas comme si les supporters demandent obligatoirement un bon résultat. On a vu lors de la double confrontation contre l'équipe locale du Togo où la pression était énorme et les Béninois ont concédé le nul à domicile. Même état de choses pour les Buffles qui ont été supportés par tout un peuple, mais au finish, on a senti qu'il y a manqué cette fraîcheur physique, même tactiquement, ça n'a pas marché puisque les Togolais étaient à l'aise au milieu de terrain. Il y a trop de pertes de balles au niveau des milieux de terrain de l'équipe de Parakou. Bref, tout reste ouvert pour le match retour, puisque même à une semaine ou bien à la veille du tirage de sort de ce tour préliminaire, retenez que les deux équipes s'étaient déjà affrontées en amical, puisque le vendredi, on a eu droit au tirage de sort le vendredi, et le lendemain, les deux équipes se sont affrontées en match amical à Lomé, où les Buffles ont fait match, un but partout. Sinon, ils devraient avoir un match retour, mais compte tenu de la confrontation de nouveau entre les deux équipes en Ligue des Champions, le match retour a été suspendu. Voilà, et les Buffles auront encore la chance d'affronter une équipe qui maîtrise bien. Donc, on peut dire que tout reste ouvert, et à Kouba, puisque il n'y a pas tellement d'écart entre les deux équipes.
On attendra de voir tout ça, Élysée. L'Étoile sportive du Sahel a été battue 2-1 par le Afia de Conakry sous une pluie battante. L'autre club guinéen, le Oroya, est allé chercher le nul 1 partout à Bamako contre le stade malien. Le club malien, justement, a manqué d'un meneur de jeu, comme nous le dit son coach Djibril Dramé.
On est tombé sur un adversaire, il y a beaucoup d'expérience. Et l'expérience a prévalu. C'était à nous de prendre le jeu en compte. On a tenté. Mais on avait besoin d'un meneur qui pouvait quand même prendre le ballon pour essayer de ravitailler la ligne d'attaque. Les gens, on a misé sur eux. Vraiment, ils n'ont pas pu le faire. Ça se comprend. Il y a un problème de compétitivité. Ce qui restait, c'était de scorer. Ça aussi, ça a été difficile. L'important, c'était de revenir et que ça soit 1-1. Le match retour, la leçon va dire que si on veut réellement se qualifier, nous, nous sommes condamnés à prendre le jeu en compte, de faire en sorte qu'on peut marquer et ne pas anticiper. Moi, je pense que ce n'est pas impossible. Si on cherche, on peut quand même faire quelque chose. Le Oréa, c'est une équipe composée de joueurs de grande humilité. C'est des individus recrutés dans 11 nationalités. C'est à nous maintenant de comprendre tous ces scénarios et de prendre les dispositions.
C'est par contre une belle opération pour les Guinéens, d'après Ibrahima Kondé, un joueur du Oroya AC.
On a pu gérer le match défensivement et c'était notre objectif de venir avoir les 3 points, au défaut de cela d'avoir un match nul. Un nul en déplacement pour Oroya, ça nous arrange. Jouer en domicile, c'est-à-dire c'est le match le plus compliqué. La Ligue des Champions, surtout le tour préliminaire, c'est une compétition qui est très difficile. Même s'il n'y a pas de championnat, mais on voit bien, il y a les jus dans les jambes.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Grosse surprise hein, avec ce score de 3 buts partout entre le Bikama United de la Gambie et le Raja Club Athlétique du Maroc. On va écouter l'entraîneur du Raja, Patrice Carteron.
La seule consigne que j'avais donnée sur ce match-là, c'était de ne faire aucune erreur défensive. Et on a donné 2 buts à l'adversaire très facile qui n'attendait que ça. On leur a donné de la confiance. Mais encore une fois, ça va être un bon signal de rappel pour que nos joueurs comprennent que la Champions League, c'est pas des matchs amicaux. Aujourd'hui, certes, il y a l'excuse du terrain, mais ça n'explique pas tout. On avait encaissé 3 buts durant toute la préparation. Et là, on vient en l'espace d'une mi-temps d'encaisser plus de buts en une mi-temps que je n'en ai jamais encaissé au Raja. Donc ça, c'est totalement inacceptable et je ne suis pas content de ça.
Des propos donc recueillis par Amine Birouk. Alors Amine, bonsoir.
Bonsoir à tous.
On dira que les consignes n'ont visiblement pas été respectées, hein, à entendre Patrice Carteron.
Et visiblement, le Raja de Casablanca a un peu pris de haut l'adversaire puisqu'ils ont ouvert le score dès la première minute sur la première action de jeu. Et il y a eu un relâchement qui a permis à Bikama United, sur une erreur défensive de l'international malien Salif Koulibaly, de revenir très vite à la marque 7 minutes plus tard. Le Raja a fait le forcing pour marquer le deuxième but. Il y est parvenu. Et puis, 2 minutes plus tard, une nouvelle approximation défensive avec une passe en retrait mal assurée vers le gardien Buzini qui a permis aux Gambiens de prendre l'ascendant, d'égaliser puis de marquer quelques minutes plus tard. Ça a poussé le Raja de Casablanca en deuxième mi-temps à mener une véritable course poursuite avant de parvenir au but égalisateur quasiment à l'heure de jeu par leur capitaine Baba Banon. Le Raja de Casablanca qui avait fait, comme l'a rappelé Patrice Carteron, une bonne préparation avec 2 matchs amicaux de qualité avec face aux clubs espagnols de Leganés et du Betis Séville, du club de première division en Liga. Et il semblait que la mayonnaise entre les nouvelles recrues et les tauliers qui sont restés avait pris. Visiblement, il y a encore quelques réglages à faire. Heureusement que sur ce champ de patates du stade de l'Indépendance de Banjul, le Raja n'a pas pris l'eau, notamment en deuxième mi-temps. Ils sont parvenus à limiter les dégâts lors de cette seconde période. Ça permettra de tirer les conclusions qui s'imposent pour le staff technique du Raja de Casablanca en prévision du match retour le 24 août prochain à Casablanca.
Merci Amin Birouk. Hein. Victoire 1-0 de Raïmo du Burkina devant Enyimba du Nigeria. Les Olos libériens se sont imposés à domicile 1-0 devant Génération Foot du Sénégal. Amdine Nagadef. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et donc, bonsoir à tous les auditeurs de la
Véra. J'ai dit Nagadef et j'ai mis tout le monde en déroute ici. Et donc, Génération Foot devra, on dira tout simplement, relever la tête à domicile.
Tout à fait, Génération Foot qui a perdu quand même la bataille de Monrovia, puisque en déplacement au Libéria, les Grenards du Sénégal ont été battus sur la plus petite des marques, sur le score d'un but à zéro, un but encaissé tout au début de la seconde période. Il faut dire que les champions libériens qui ont pris quand même une précieuse avantage en 1-0, c'est pas facile à remonter, surtout pour cette équipe de Génération Foot, car en ce moment, le championnat au Sénégal n'a pas encore démarré. C'est pourquoi c'est très très difficile de jouer ces tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Mais les hommes du président Mahdi Touré vont essayer quand même de suivre les pas des Lions locaux, les Lions locaux qui avaient perdu but à zéro face à l'équipe nationale locale du Libéria et qui ont renversé la tendance. On va voir dans 7 jours le match retour, ce sera au stade Ladjor de Thiès et les joueurs de Génération Foot tenteront quand même de renverser la vapeur, pourquoi pas un remontada pour pouvoir se qualifier, Yacouba.
Merci Amdine. Bonne opération pour l'AS Auto, vainqueur 2-1 du Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. SOA de Côte d'Ivoire a fait 0-0 avec Ouagadougou de la Mauritanie. Alors, Jules, on va se rappeler aussi que le CMS du Gabon et Elect Sport du Tchad se sont séparés sur le même score 0-0.
Oui, bien sûr. Et un score qui reflète bien le contexte actuel en mesure où le CMS s'est préparé sans avoir à jouer le championnat. Le championnat n'a pas encore réellement démarré et en plus, ça a été une préparation interne sans rencontrer des équipes d'envergure internationale. Et donc, finalement, le score de 0-0 permet aux deux clubs d'espérer au match retour. C'est déjà une chose que le CMS n'est pas encaissé de but à domicile.
On enchaîne avec la Coupe de la Confédération, dont l'étape aussi était au préliminaire. Allez, hein, le week-end écoulé, ce soir, le DC Motoma Pembe a pris le dessus sur le stade Renard du Cameroun 2-0. On va écouter le coach congolais du DC Motoma Pembe, Isaac Ngata.
Aujourd'hui, on va savourer cette victoire qui n'a pas été facile à se dessiner parce qu'il y a une équipe en face qui a été très costaud. Effectivement, nous avons une carence dans l'effectif qui va à la CAF pour le premier match aller-retour. Nous avons une carence d'attaquants. Ça, c'est dû à des problèmes administratifs, mais il faut qu'on fasse avec. Donc moi, je vais pas me formaliser avec ça. Je vais travailler avec les moyens de ce qu'on a. Ça nous a pas empêché d'avoir des situations. On va peut-être travailler plus ces situations-là que chercher un avançant puisque de toute façon, on n'aura pas.
En face, les Camerounais ont eu du mal hein, dans cette phase, comme nous le dit leur coach Bertin Eboué.
Vous savez que ce match aurait dû se jouer hier et pour des difficultés que nous avons au Cameroun entre la fédération et les clubs. Ça a un peu perturbé notre voyage. Je pense que c'est ce qui nous met un peu dans cette situation. Mais ce n'est pas pour trouver une excuse. Comme ici chez vous, le championnat n'a pas démarré. Nous aussi au Cameroun, le championnat vient de se terminer.
Des propos donc chaudement recueillis par Thierry Kamboundi de Top Congo FM. Alors Thierry, c'est quand même une belle opération pour le DC Motoma Pembe.
Une belle opération pour les Verts de Kinshasa, d'autant plus que je vais revenir sur le contexte évoqué tout à l'heure pour les clubs. Motema Pembe qui revient à l'Afrique également pour cette deuxième saison d'affilée, se retrouve pratiquement dans le même contexte. C'est un nouveau staff technique qui est arrivé, un nouveau comité de direction également, et des nouveaux joueurs. Le championnat n'a pas encore commencé. Vous entendiez tout à l'heure le coach de Berlin évoquer le fait que certains joueurs, il n'a pas pu les aligner parce que administrativement pas prêt. Bref, c'est dans ce contexte que les Verts et Blancs ont été poussifs au stade des Martyrs. Ils ont manqué une série d'occasions en première période face à une équipe camerounaise repliée qui est arrivée peu tardivement. Le coach l'a expliqué. Le match devait avoir lieu hier dimanche, mais suite à des problèmes entre la Fédération camerounaise de football et le club, cette formation est arrivée finalement pour jouer le match aujourd'hui. Bref, le jeu s'est débloqué pour les Verts et Blancs qui ont pu trouver quelques espaces en seconde période et qui ont marqué tout d'abord par Rachidi Assoumani, puis par Junior Koné, joueur ivoirien. Donc voilà, Motema Pembe qui marque ce début, qui lui permet d'avoir un match là d'avance avant le match retour prévu au Cameroun dans les prochains jours.
Merci Thierry Kamboudi. Entre autres résultats, on va juste rappeler que le SAE du Bénin a réussi le coup devant l'ASC Slim de la Mauritanie. Victoire des Béninois 5-0, 1-1 entre Pélican du Gabon et Maniema de la République démocratique du Congo. Et donc ce sont là, entre autres résultats, de cette Coupe de la Confédération version tour préliminaire. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Vous l'avez suivi, l'Espérance de Tunis a été déclarée vainqueur, en tout cas implicitement, de la Ligue des Champions. La CAF a déclaré perdant de la finale retour par forfait le Wydad Casablanca, donnant le titre à l'Espérance de Tunis. Au terme d'une longue bataille de procédure, les Marocains ont été sanctionnés pour avoir quitté la pelouse lors de la finale retour le 31 mai à Rades en guise de protestation contre une panne de l'assistance à l'arbitrage vidéo qui aurait pu leur valider un but refusé par l'arbitre. Alors Amine, on ne sait pas jusqu'où va nous mener cette affaire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le dénouement d'une longue bataille judiciaire et administrative?
Je n'en suis pas très sûr, Yacouba. Dans la mesure où, primo, la décision de la commission de discipline de la CAF n'est pas très nette, puisqu'elle déclare le Wydad de Casablanca perdant et déclare de cette manière implicitement l'Espérance de Tunis gagnante, mais l'intitulé n'est pas très clair. Deuxième chose, c'est une décision qui prend le contre-pied de celle du comité exécutif de la CAF. Et ça, c'est quand même une première ou un précédent dans le football africain. Troisième chose, visiblement, le Wydad de Casablanca se dirige vers un appel. Donc, on remet quasiment les pendules à zéro et on attendra dans les quelques jours qui suivent la décision du comité d'appel. Le Wydad avait 3 jours plus le premier et le dernier jour. Donc, quasiment 5 jours pour pouvoir déposer cet appel. Il a été fait dans la journée même. Et puis, visiblement, il y a encore un problème de lecture ou d'interprétation en termes de commission compétente. Est-ce que c'est la commission de discipline qui devait statuer sur ce cas ou la commission interclub, celle qui organise les compétitions continentales au niveau des clubs? Visiblement, il y avait une plainte du Wydad de Casablanca en date du 2 juin, 48 heures après les incidents de Rades. Et visiblement, il se pourrait que le Wydad de Casablanca, en vertu de cette plainte et en vertu du fait que la commission interclub n'est pas entrée en jeu, puisse recourir le cas échéant en cas de verdict défavorable de la commission de discipline vers le tribunal arbitral du sport qui sera de ce fait-là obligé cette fois-ci de statuer sur le fond. Donc nous en sommes quasiment à un labyrinthe. Sur le plan de la procédure et sur le plan judiciaire ou juridique, les deux parties ont des positions solides. En tout cas, elles estiment qu'elles ont des arguments assez solides qui sont fondés sur le plan juridique. Et il va falloir s'attendre à un épilogue qui risque de durer longtemps. Visiblement, les décisions prises par le comité exécutif de la CAF, l'organisation actuelle et les textes de la CAF sont aujourd'hui à revoir. Ça pose un problème de gouvernance. Quand une commission indépendante ou une commission prend le contre-pied de la décision du comité exécutif, c'est qu'il y a un véritable malaise au sein de la gouvernance de la CAF.
Merci Amine. Alors Jules, pour rebondir sur ce qu'Amdine disait tout à l'heure, sauf que le TAS a déclaré quand même le comité exécutif de la CAF incompétent pour se saisir de cette affaire. Et donc, il n'y a aucun problème à mon avis.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on a affaire à des situations comme celle-là. Ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique elle-même, on se souvient encore de l'incident ou du grave problème qu'il y a eu lors de la CAN en Angola avec l'attaque contre la délégation togolaise. Le président de la FIFA s'était présenté, avait dit que les Togolais ont le choix de continuer ou de partir, on comprend leur problème. Et peu de temps après, le comité exécutif nous disait qu'il n'a pas compétence pour le faire et il déclarait donner une décision contraire. Alors, mais en ce qui concerne les jeux des équipes sur le terrain, ce serait une première si on donne raison à une équipe qui abandonne le jeu en Afrique. Je ne l'ai jamais vu. Le plus souvent, on demande à l'équipe d'aller jusqu'au bout et de faire des recours. Donc, à ce niveau-là, si la CAF a joué au, disons que, elle s'est lavé les mains au premier tour, je la vois mal reprendre une décision maintenant, après cette décision prise par cette commission accréditée et légale de la CAF.
Alors, Élisée, très rapidement, en 30 secondes, pensez-vous que ce dénouement permettra à la CAF quand même de retrouver un peu d'autorité, de son autorité, on va dire, bafouée, quand même ces temps-ci?
C'est bien évident, c'est bien évident, Yacouba, il faut le dire, puisque beaucoup s'attendaient que cette finale soit rejouée. Donc, si déjà une telle décision a été prise, c'est vrai que ce qui étonne le plus, c'est cette amende-là, infligée à l'espérant de Félix, qui est à près de 50 000 dollars. Sinon, quelque part, cette confédération a commencé par inquiéter plus d'un, mais suite à cette décision, moi, en tout cas, à mon avis, je pense que ça peut un peu respirer au sein de ce comité exécutif.
Parlons à présent du basketball. L'Afrobasket Dame a commencé samedi à Dakar et se poursuivra jusqu'au 18 août prochain. La deuxième journée a été marquée par la large victoire du Cameroun face à la Tunisie 95-53 ainsi que la réaction des Ivoiriennes face aux Égyptiennes 71-67 au lendemain d'une correction 77-36 infligée par les Sénégalaises aidées par leur banc, comme le dit leur coach Cheikh Sarr.
Le banc a apporté 25 points dans les 77, quand même c'est quelque chose, même si on peut avoir plus. Les filles qui rentrent, elles essaient de faire mieux, et c'est là où viennent les erreurs. Je pense qu'elles doivent prendre le match progressivement, prendre la température du jeu, mais ne pas venir tout de suite forcer les tirs, quoi. C'est ça qui nous a un peu fatigués. Il faut les mettre dedans, et puis les permettre de comprendre le jeu de transition au niveau de l'emplacement, quoi. Parce que Jojo, il ne faut pas oublier qu'elle vient de blessure, elle a du mal à décoller, quoi. Voilà. Mais il faut le mettre dedans pour qu'on puisse la récupérer dans les prochains.
Cheikh Sarr, coach du Sénégal, au micro d'Amdine Si, que nous retrouvons. Alors Amdine, les Lions sont dans leur compétition.
Oui, tout à fait. Le Sénégal, pays hôte, qui s'est imposé largement, vous venez de le dire, face à la Côte d'Ivoire sur le score de 77-36. Mais il faut dire que le début a été très difficile pour les Lions du Sénégal qui ont quand même perdu ce premier quart-temps face à une équipe ivoirienne vraiment très courageuse. Et comme vous l'avez entendu avec Cheikh Sarr, les joueurs du banc ont apporté un plus et finalement le Sénégal s'est imposé. Ensuite, il y a eu la deuxième journée où le Sénégal était exempté comme c'est des équipes. C'est des poules de trois équipes, la Côte d'Ivoire qui rencontrait l'Égypte et la Côte d'Ivoire qui s'est relancée en s'imposant devant l'Égypte sur le score de 71-63. Demain, mardi, le Sénégal rencontre l'Égypte. Mais il faut dire, Yacouba, que depuis le début de cette compétition, on note quand même que la hiérarchie est respectée, que ce soit au niveau du groupe A où le Sénégal domine les débats. Dans le groupe B aussi, on a vu le Nigeria aussi qui s'est imposé très largement face à la Tunisie 75-26. Et vous l'avez dit, le Cameroun aussi qui s'est imposé 95-53. Et ces deux équipes vont se rencontrer demain. Ce sera la finale de ce groupe B. Au niveau quand même du groupe C, c'est un groupe très élevé avec l'Angola, la RDC et le Mali. Le Mali qui bat l'Angola, l'Angola qui bat la RDC. Et demain, c'est le Mali qui retrouve la RDC. C'est un duel aussi passionnant. Il faut dire que l'Afrobasket bat son plein et que les équipes se donnent coup pour coup. Et demain, on aura quatre rencontres, dont deux chocs. Mozambique-Cap-Vert, Congo-Mali, Cameroun-Nigeria et Sénégal-Égypte-Yacouba.
Merci bien, Amdine Si, depuis Dakar, vous qui suivez hein, cet afro-basket féminin pour nous. Sporama va s'achever ici en même temps. Merci à Jules Valentin Ngwe, merci à Amdine Si, merci à Élisée Mpatine, à Thierry Kamboundi et à Amine Birouk depuis Casa, à la réalisation Joselle Morissin. Devant ce micro, Yacouba Ouédraogo, on se retrouve la semaine prochaine.